Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL. Bonjour les amis.
Bonjour Christelle.
Bonjour Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de curiosité sur RTL. Histoire, science, nature, grand destin, saga musicale. On va explorer tous ces thèmes de lundi à vendredi avec vous et avec Sidonie. Bonjour.
Bonjour Thomas. Bonjour les curieux au programme. La mauvaise réputation du cochon. Ici dans la curiosité, on va pas balancer de porc. Au contraire, on va faire tomber les plus gros clichés sur l'animal. Sale, bête, vulgaire, c'est même pas vrai. Et tout ça, ce sera vers 14h30 sur RTL.
Allez, pour commencer, l'enfance de nos champions du monde.
Thomas Hugues.
À l'école des champions.
Sidonie Bonnec.
La pédance ballon.
RTL.
Hugo Lloris est né un 26 décembre 1986 dans les beaux quartiers de Nice. Sa mère, Marie Lloris, est avocate internationale. Son père, Luc Lloris, était banquier à Monaco.
La curiosité est un vilain défaut.
Très bonne mentalité, très bonne éducation par les parents ou autres. Ça fait plaisir de voir des gosses qui sont si corrects, qu'ils arrivent. Bonjour monsieur, au revoir, bonjour monsieur.
La politesse d'Hugo Lloris. Bonjour Vincent Duluc.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Nous aussi on est polis. Bonjour monsieur.
Ah oui, comme toujours à la radio, quand même, c'est la moindre des choses. Vous êtes l'une des belles plumes du journal L'Équipe. Vous suivez l'équipe de France pour le journal depuis plusieurs années et vous avez enquêté donc sur l'enfance de ces champions du monde. Alors il y a pas mal de différences et quelques points communs dans leur parcours. Tiens, par exemple, la proximité d'un terrain de foot, pour certains d'entre eux, ça aide.
Oui, ça aide. Ça a probablement aidé Kylian Mbappé, dont l'appartement familial jouxtait le stade de Bondy, où le père de Kylian Wilfried était entraîneur.
Mmh. Mais ça et Olivier Giroud aussi.
Mais Olivier Giroud aussi, ouais. dans sa Savoie natale.
Mais il n'y a pas que la proximité quand même d'un stade de foot qui fait que ça va devenir des champions. Qu'est-ce qui, dans leur enfance, change? Pourquoi sont-ils différents, ces futurs champions?
Mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'ils soient complètement différents au départ. C'est-à-dire que quand on regarde bien, finalement, ils vivent à peu près la même enfance, j'allais dire la même enfance que nous. Que nous, qui avons un peu joué au foot, qui avons adoré ça et qui avons eu nos rêves. Finalement, ce qui est assez fascinant, au contraire, c'est peut-être tout ce qu'il y a de commun. C'est-à-dire le fait d'avoir dormi avec un ballon, d'avoir pensé qu'à ça.
D'aller au match,
d'avoir supplié ses parents pour aller voir un match à droite ou pour aller à l'entraînement ou pour roger le week-end.
De connaître par cœur le nom des joueurs.
Voilà, exactement. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses communes. Alors après, c'est vrai que très vite, le talent sépare un peu les destins ordinaires des destins extraordinaires.
Dans la génération précédente des champions du monde, Thierry Henry était réputé pour tout connaître du foot, toutes les statistiques. Benjamin Pavard, il est un peu comme ça ?
Absolument, il est un peu comme ça. Dès qu'adolescent, il faisait des concours, des espèces de quiz un peu avec son agent ou avec ses copains pour réciter ça. Mais moi, avec mes amis d'enfance, on faisait des concours de vignettes Panini. On avait des plombs comme ça de 50 et il fallait reconnaître des joueurs de Valenciennes moustachus des années 70.
Oui, bah oui, c'était pas facile parce qu'ils étaient tous moustachus.
Exactement.
Des souvenirs comme Benjamin Pavard et sa frappe de bâtard. On ne peut pas ne pas se faire un petit plaisir comme ça en réécoutant les chansons phares de cette Coupe du Monde. Vincent Duluc, vous publiez chez Larousse, Enfant de la balle, de l'enfance à l'équipe de France, l'incroyable destin des champions du monde. Vous ne pouvez pas faire plus court comme titre?
Attendez, notre émission, c'est la curiosité, c'est un vilain défaut quand même. Donc.
Oui, on ne peut pas se moquer.
Elle dure moins longtemps, l'enfance de ces jeunes joueurs et de ces champions qu'on connaît aujourd'hui?
Elle dure moins longtemps, elle est différente.
Parce qu'ils bossent plus vite, c'est ça?
Oui, et puis en même temps, ce qui est fascinant et ce qu'il faut remettre en perspective, c'est que ils passent évidemment pour des privilégiés, ce qu'ils sont. Ce sont des joueurs qui gagnent des millions d'euros pour assouvir une passion. Donc c'est vraiment des destins à part. Mais ce qu'on mésestime un peu, c'est quand même les sacrifices pour en arriver là.
Et alors, Pascal Pro qui vient de s'installer dans le studio de la curiosité, hyper discret.
Il nous dit surtout le dites pas, mais on te voit sur RTL.fr, Pascal. Salut Pascal, ça va bien?
Ah, il vous faut toutes les émissions, Pascal.
J'ai vu Vincent Duluc dans votre...
Bah oui.
J'ai dit, je vais aller voir Vincent Duluc.
Bah oui, bon, fais-lui la bise et puis on n'en parle plus.
On parlait de l'enfance un peu courte. Est-ce que ça leur manque pas, ces joueurs de foot assez chanceux? Cette adolescence écourtée quand même dans leur vie d'adulte, de jeunes adultes.
Mais en tout cas, du coup, effectivement, à l'adolescence, ils vivent des ruptures que les adolescents ordinaires ne vivent pas. Quand Antoine Griezmann quitte Mâcon à l'âge de 13 ans pour aller habiter à Bayonne chez quelqu'un qui connaît pas au départ les Ricolades, et pour devenir apprenti footballeur à la Real Sociedad à Saint-Sébastien, c'est une vraie rupture familiale douloureuse. Il faut, et quand il revient à Mâcon tous les mois et que tous les dimanches soirs on le raccompagne à l'aéroport, il pleure pendant tout le trajet. Mmh. Donc voilà, c'est pour dire
ça que ça forge le caractère aussi.
C'est pour dire que les footballeurs passent toujours pour des gens qui effectivement qui sont privilégiés, mais on oublie d'une part la difficulté de l'apprentissage à ce moment-là, c'est une vie un peu différente, et la concurrence permanente incroyable. Ils sont en concurrence tout le temps. Au départ, il s'agit d'être le meilleur joueur du lycée, après le meilleur de la ville, après le meilleur du département, après le meilleur de la région, après d'être celui qui joue en équipe de France, puis d'être encore meilleur que les autres. Et il faut aussi se souvenir que, par exemple, que dans les centres de formation qui vont donc désigner les joueurs professionnels à la fin de l'apprentissage vers l'âge de 18 ans, tous les ans, au mois de mai, il y a le verdict de la lettre envoyée par le centre en disant « on vous garde, on ne vous garde pas ».
D'ailleurs,
ça peut être d'une violence extrême.
Ouais, et il ne faut pas être trop gentil. Olivier Giroud, il était presque trop gentil.
Mais Olivier Giroud était trop gentil. Et en plus, il y avait le traumatisme familial de l'échec de son frère aîné Romain, qui avait fait le centre de formation à Auxerre, qui avait tenté de faire une carrière en Angleterre, qui avait échoué et qui a fait en sorte que le jeune Olivier Giroud ne vive pas les mêmes galères que lui.
Donc les parents ont dit non.
Donc les parents ont dit non, effectivement, quand Olivier Giroud a voulu rejoindre un centre de formation à l'adolescence, ils ont dit non, attends un peu, on verra, rappelle-toi de Romain, comment il a échoué. Mais finalement, quand on regarde l'équipe de France en 1998 et en 2018, on se rend compte que tous les destins sont possibles, qu'effectivement, il peut y avoir des destins linéaires dans la formation, mais qu'on peut aussi arriver à la gloire par la porte de derrière.
Eh bien, c'est ce qu'on va raconter grâce à vous. Ceux qui auraient pu, tiens, peut-être choisir d'autres sports, comme Hugo Lloris, tennisman prometteur, ou Steve Mandanda, apprenti boxeur. On découvre les secrets d'enfance de nos champions du monde sur RTL.
14h, 15h.
C'est pour moi ça. C'est la relève.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Deux chasseurs d'autographes en culotte courte ce matin à Saint-Jean-d'Ardière pendant l'entraînement des Bleus. Ils se faufilent partout et ils sont tellement craquants qu'on ne peut rien leur refuser.
Sur RTL.
Henri, Lisa Razou, Barthez, Robert Pires, Mixenfe, Lisa Razou, Carambeu, Candela.
La c'est voix génial. D'Antoine Griezmann, petit garçon qui demande des autographes comme ça aux champions de France 98.
Champion du monde.
Aux champions du monde, pardon, et qui les égrène comme ça de bonheur. Comment devient-on champion du monde? C'est justement la question qu'on se pose et qu'on pose à notre invité, le journaliste Vincent Duluc. Dites-nous, Antoine Griezmann, il est repéré très très tôt, là, quelques heures, quelques jours après cette petite voix et ses autographes demandés en 98.
Donc maintenant, il y a un tel règne de l'image qu'on peut retrouver comme ça des images pour la plupart des mômes. Donc ouais. Ça, c'est assez fascinant. Mais oui, il est repéré assez tôt parce que c'est une petite grignette de Mâcon, mais qui est plus fort que les autres. Et ça se voit très vite quand même. C'est vrai que les...
Mbappé aussi, c'est très linéaire, Mbappé.
Mais Mbappé, il est préparé depuis l'âge de, je sais pas, de 5 à 6 ans.
Mais par qui est préparé?
Par ses parents.
Ah ouais. Et en plus, le rêve de ses parents de devenir.
C'est pas tout à fait le rêve de ses parents, mais ses parents connaissent très bien le foot. Mmh. Le père de Kylian Mbappé est un éducateur connu, un entraîneur connu de la région parisienne, qui connaît très bien les jeunes, qui les a entraînés. Et très vite, ils ont vu qu'il était très doué. Ils l'ont vu d'autant plus vite, que son demi-frère, Jires Kembo, a été un joueur du Stade Rennais en professionnel, a joué en équipe de France Espoir, et a donc finalement ouvert la voie un peu pour Kylian. Kylian avait 10 ans quand il allait voir son frère au Stade Rennais, il savait exactement comment il allait se passer. Il avait tellement de talent, c'était tellement évident, qu'il a été préparé à tout, préparé à la médiatisation, préparé à la gloire, préparé au match du haut niveau. Et en fait, on retrouve aujourd'hui, dans le Kylian Mbappé d'aujourd'hui, on retrouve ce qu'a été son enfance. C'est-à-dire qu'il a tellement été préparé à ça qu'il a l'impression que tout est naturel.
Il dégage cette maturité complètement dingue pour un gamin de 20 ans.
Il est champion du monde à 19 ans, mais ça lui paraît normal. Et la suite, c'est d'être champion du monde une autre fois. Voilà, c'est pour lui, ça peut pas être une apothéose.
Puisse-t-il dire vrai ?
Mais oui, donc c'est effectivement quelque chose de différent. On peut effectivement séparer les destins un peu linéaires comme Mbappé, comme Griezmann, des joueurs qui sont arrivés par des voies détournées, comme Kanté, par exemple.
Ah, on va raconter N'Golo Kanté.
Qui a 20 ans, joue en amateur.
N'Golo Kanté, où est-ce qu'il se fait repérer, N'Golo Kanté?
Il est repéré sur un terrain de la région parisienne. Il jouait à Suresnes. Il avait il vivait avec sa mère et sa fratrie à Rueil-Malmaison. Il a joué longtemps à la JS Suresnes, jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, il a été repéré. Il est parti à Boulogne-sur-Mer.
Donc là, il est encore au niveau deuxième ou troisième division.
Il jouait en national, qui est le niveau 3 du football français. Et il a galéré une saison ou deux avant d'avoir un contrat professionnel. Et après seulement, il est parti à Caen. Et après seulement, il est parti à Leicester. Et c'est comme ça qu'il est devenu N'Golo Kanté.
Mais pourquoi les recruteurs ne le repèrent pas aussi vite que d'autres joueurs? Parce que, alors je dis n'importe quoi, peut-être parce qu'il est plus petit, parce qu'il n'a pas le physique, parce qu'il n'a pas la taille.
Probablement parce qu'il est plus petit, parce qu'il est vraiment pas très haut. Et sans doute aussi parce qu'il a cette qualité assez rare, mais qui peut être un défaut au départ, de s'adapter au niveau auquel il joue, mais de ne pas montrer de différence. C'est-à-dire que quand il joue en championnat d'Île-de-France, il a le niveau du championnat d'Île-de-France, et quand il joue en Ligue des Champions, il a tout de suite le niveau de Ligue des Champions. En fait, il s'adapte complètement à son environnement, et c'est quelqu'un dont, effectivement, dont le talent apparaît sur le tard. Mais c'est le cas d'autres joueurs, comme Adil Rami, par exemple, si on veut parler des destins, c'est incroyable.
Pourquoi il devait faire quoi, Adil Rami ?
Adil Rami, à 18 ans, il est jardinier municipal à Fréjus.
Voilà. À 18 ans, mais donc il fait du foot à côté, évidemment, quand
il
même.
Il fait du foot à côté, évidemment. Il s'entraîne trois fois par semaine au club de Fréjus, qui joue, je ne sais plus s'il joue au niveau 3 ou au niveau 4 à l'époque.
Il est déjà vieux à 18 ans.
Oh, il est déjà vieux.
Non, mais dans le monde du foot.
Pas pour tout le monde.
Oui, non, c'est sûr. Moi, je suis une grand-mère, sinon, à côté. Mais comment il est repéré, alors?
Mais il est repéré parce qu'il a un ou deux entraîneurs qui croient en lui. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de constant dans la plupart des destins, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui croit en eux. Un entraîneur, quelqu'un qui va les sonner à toutes les portes pour eux. Et dans le cas de Rami, c'est le cas. Il a même deux entraîneurs à Fréjus qui lui font passer des tests. À Monaco, qu'il ne veut pas. À Nice, qu'il ne veut pas. À Cannes, qu'il ne veut pas. Et finalement, c'est un copain qui a un copain d'un copain qui est à Lille, qui lui dit prends-le à l'essai. Et c'est comme ça que tout part pour Adil
Rami. La ténacité.
Enfant de la balle, Vincent Duluc, c'est le titre de votre livre publié chez Larousse. Alors, il y a aussi ceux qui auraient pu faire d'autres sports. Alors, Mandanda, bon, il était apprenti boxeur. Et Hugo Lloris, qui était un bon joueur de tennis, c'est ça?
C'était un bon joueur de tennis, effectivement. Je crois qu'à 12 ou 13 ans, il était classé 15, alors c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment un bon niveau. Mais il a préféré un sport individuel. Et moi, j'en ai parlé une fois avec lui, il me disait qu'il gérait mal la frustration au tennis, et il préférait finalement que ce côté collectif.
Alors, ce qui va permettre à Kanté de s'ouvrir les portes du foot professionnel, c'est un test. Le test de Léger Boucher.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est quoi juste? Bah, réponse juste après la pause sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
N'Golo Kanté tape ses premiers ballons au sein du club de la jeunesse sportive de Suresnes. Il y prend sa première licence à l'âge de 10 ans et dévoile peu à peu tout son potentiel.
Ronaldinho, Ronaldo, Maradona, c'est des joueurs comme ça qui m'inspiraient et que j'aimais regarder.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
L'enfance des champions du monde de foot au menu de notre curiosité sur RTL avec le journaliste du journal L'Équipe, Vincent Duluc, qui nous raconte. Alors, après cette première licence à Suresnes, N'Golo Kanté, vous nous l'avez dit, il se fait repérer, il se retrouve dans un club à Boulogne-sur-Mer. Alors, je crois que l'équipe est en deuxième division, mais que lui joue en réserve, donc il n'est même pas dans l'équipe première. Et un test va commencer à inverser la tendance. C'est le test de Léger Boucher. C'est quoi ça, Vincent Duluc?
Mais c'est un test canadien qui consiste à faire des tours de terrain de plus en plus vite. Et à chaque fois que vous arrivez devant une balise, il y a un petit bip. Et en général, il y a des joueurs qui, au bout de 10 minutes, 11 minutes, ils rendent l'âme et le reste, ils glissent et c'est fini. Et lui, il n'arrêtait pas, il continuait 15 minutes, 16 minutes, 17 minutes. Donc en fait, il faisait exploser tous les compteurs. Et là, les entraîneurs ont commencé à se rendre compte qu'il avait des capacités physiologiques absolument extraordinaires.
Et ça, ça lui ouvre les portes de l'équipe première, ou il faut encore ce que vous disiez, c'est-à-dire un coup de pouce du destin, un entraîneur qui croit en lui, quelque chose en plus?
Il faut un entraîneur qui croit en lui, toujours. Toutes les histoires commencent toujours comme ça. Ça aurait sans doute pas suffi. En plus, c'est pas quelqu'un, on le voit bien dans la vie de tous les jours aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui prend naturellement de la place, qui va bousculer les autres. Ouais. On l'entend pas, il est toujours dans son coin, il parle pas. Et
c'est ce qui le rend si populaire d'ailleurs.
C'est ce qui le rend si populaire. Je veux dire, on va aller directement à la fin de l'histoire. Quand les champions du monde ont été présentés au mois de septembre dernier au Stade de France, les uns après les autres, quand N'Golo Kanté est rentré sur le terrain, mais il y a eu un espèce de d'élan du cœur, mais j'ai jamais entendu autant de bruit au Stade de France pour un seul joueur.
Au stade,
et on pensait
magique,
pas que ça serait pour lui. Moi, je pensais que ça serait pour un Griezmann, pour un Pogba, pour un Mbappé, mais ça a été pour Kanté.
Pourquoi il plaît? Parce qu'il nous ressemble? Parce qu'il est discret?
Parce qu'il est humble, exactement.
Il est humble,
c'est parce qu'il est humble, parce qu'il ressemble à tout le monde, et parce que toutes les histoires qu'on entend sur lui, bah, c'est ça.
C'est un gars bien.
Exactement, c'est quelqu'un de très bien.
Vincent Duluc, dans le parcours, là, on est sur l'enfance des champions du monde de cet été, avec des parcours qui sont très différents. Il y a ceux qui sont repérés très tôt, qui rentrent dans un club pro, etc. Et donc qui ont une enfance plus courte que la moyenne. Mais à quel âge ils commencent à gagner leur vie, vous voyez ce que je veux dire, dans des conditions qui commencent à être hors normes, quoi. C'est quoi? C'est le premier contrat professionnel? Quand est-ce que ça bascule?
C'est quelque chose qui évolue avec les générations. Par exemple, la génération des champions du monde 98, ils n'ont pas commencé à gagner leur vie avant d'avoir, avant le deuxième contrat professionnel, souvent. Donc avant 21, 22 ans. Aujourd'hui, avec les frontières qui sont ouvertes complètement, avec la possibilité pour les plus grands clubs européens de recruter des jeunes joueurs de 14, de 15 ans, de 16 ans, même si officiellement il y a des lois de protection des joueurs mineurs, concrètement, les clubs professionnels sont obligés de verrouiller les contrats des jeunes joueurs et d'offrir à des joueurs de 16 ou 17 ans des fois des contrats allant jusqu'à 100 000 euros par mois.
Il
déjà.
Va où tout cet argent, sur des comptes à part? C'est les parents qui touchent?
Effectivement, il y a des étapes intermédiaires jusqu'à leur majorité. Mmh. Et parfois, c'est un argent qu'ils ne peuvent pas toucher intégralement jusqu'à leur majorité, mais les parents sont là.
Est-ce que déjà ça crée des jalousies?
100 000 euros à 15-16 ans, ça peut rendre dingue.
Ça rend fou, ouais.
Ça peut rendre dingue et ça peut avoir d'autres conséquences. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'argent empêche la progression des joueurs aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tous ce dont vous avez toujours rêvé très tôt, votre progression peut être stoppée aussi.
Ça, mais ce qui fait impact de l'apprentissage. La différence, c'est le mental de ces joueurs aussi. Exactement. Ils ont un mental hors norme.
Mais de toute façon, c'est toujours ça qui fait la différence. On se rend bien compte que le talent est à peu près le même partout et que c'est la résilience quand elle est nécessaire et que c'est l'amour du jeu aussi qui va faire la différence.
Mais alors, c'est ce que vous racontez dans ce livre Enfant de la balle aux éditions Larousse. Il y a l'exemple de Corentin Tolisso, puisqu'on parle de mental, avec donc aujourd'hui il joue au Bayern de Munich, c'est un ancien joueur de l'Olympique lyonnais, et son père avait écrit quelque chose au-dessus de la porte de sa chambre, c'est ça, c'était quoi?
Ah, j'ai oublié, mais en fait,
c'était mental, alors attendez, il y avait trois initiales. Sébastien Robin qui est...
Mental, travail, humilité.
MTH.
Mais alors, j'ai connu son père que j'avais joué en amateur avec Vénitieux à la fin des années 80. Mais Corentin Tolisso, ce qui est fascinant, c'est que on parlait des vieilles images. OLTV tourne des images avec les équipes de jeunes depuis 15 ans. Et sur Tolisso, finalement, à un moment, ils ont fait un petit reportage où on voyait Tolisso à tous les âges. Et à 12 ans, c'est juste une grande bouche qui fait 1m20, qui n'arrête pas de parler à tout le monde, qui occupe tout l'espace, qui les soirs de Ligue des Champions, quand l'OL joue en Ligue des Champions, il est au premier rang de l'internat dans la salle de télé. Et on voit que lui, on n'entend que lui. Mais c'est quelqu'un qui a dû repousser beaucoup d'obstacles pour devenir professionnel, parce que lui, effectivement, au départ, personne croyait en lui.
Alors, moi, il y a une histoire que Bichente Lizarazu, qu'on connaît bien et qu'on adore ici sur RTL, m'a racontée. C'est un jour, quand il était gamin, un éducateur qui lui dit t'es pas fait pour le foot, quoi, tu y arriveras jamais. Et puis ça a été un moteur pour lui. Est-ce qu'il y a certains joueurs de cette équipe de France championne du monde qui ont vécu ça?
Oui, beaucoup ont vécu du rejet. Je me souviens très bien cette anecdote. C'était un responsable du recrutement à Bordeaux qui lui avait dit, qui avait dit à ses parents devant lui, sans s'adressant à lui, qui avait dit à Lisa, tu seras jamais professionnel. Ouais.
Non, Benjamin Pavard a vécu ça
avec. Je crois que c'était avec Frédéric Antonetti, qui était l'entraîneur des pros à ce moment-là à Lille, qui lui disait qu'il ferait jamais carrière. Après, est-ce que ces gens-là se sont complètement trompés? Est-ce que c'est le fait de l'annoncer aussi qui a fait un déclic? C'est difficile à savoir, mais effectivement, ils vivent tellement dans la concurrence que le rejet et la difficulté peut être autant un moteur qu'un coup porté finalement. À leur avenir.
La chance, ça peut jouer aussi son rôle. Dans un instant, on va vous raconter comment Steve Mandanda a signé son premier contrat pro dans une chambre d'hôpital.
Et puis, juste après, sur RTL, on vous dit tout sur le cochon. Vous verrez qu'il a mauvaise réputation et que c'est très injuste. Il est très malin, parfois même un peu plus que nous.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Avec Vincent Duluc qui nous raconte l'enfance de nos champions du monde de foot. Et juste avant de passer à notre deuxième thème avec Marc Giraud qui nous a rejoint dans le studio de la curiosité. Bonjour Marc.
Bonjour Marc.
Tout va bien? Vous êtes en
très
forme
bien. Absolument.
Vous êtes trompé de chemise?
Non, j'ai pas de chemise avec des cochons.
Oui, parce qu'on va parler du cochon dans l'émission dans un court instant. Vous êtes plutôt venu avec des toucans, mais c'est très joli.
C'est joli.
C'est très joli aussi. Alors Vincent, on termine avec vous et on termine avec une anecdote qui concerne Steve Mandanda, donc, qui est le gardien de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, gardien remplaçant des Bleus champions du monde. Il y a deux clubs qui se l'arrachent, Caen et Le Havre. Racontez-nous la suite.
En fait, il devait signer à Caen et le recruteur du Havre passe quand même un soir chez la famille Mandanda pour essayer de convaincre la famille Mandanda de faire signer au Havre. Mmh. Et le père Mandanda lui dit bah oui, ça serait une bonne idée, mais malheureusement, il a une crise d'appendicite, il est à la clinique, etc. Et, tout. Et du coup, en pleine nuit, le recruteur et le père Mandanda vont les réveiller, le jeune Steve, à la clinique pour lui faire signer le contrat. Et c'est comme ça qu'il va partir au Havre, puis à l'OM et qu'il va devenir professionnel.
Et les recruteurs de Caen, ils étaient là le lendemain matin, c'est ça ?
Ils sont revenus le lendemain, leur dit bah non, c'est fini, ça s'est passé dans la nuit.
Voilà. Ça tient aussi à ça une carrière de joueur de foot. Merci beaucoup.
Et merci à vous.
Vincent. Merci Vincent. Merci
Enfant vous. De la balle, c'est le titre, le vrai titre, hein, parce que moi j'avais dit tous les sous-titres tout à l'heure, de l'enfance à l'équipe de France, l'incroyable destin des champions du monde.
Il y a derrière aussi, il y a
oui,
des mots à lire.
Je peux lire la page 4 aussi. Bon. Bref, oh, Vincent Duc, très jolie photo en quatrième de couve aussi. Et bref, tout ça, c'est chez Larousse. Allez, ciao Vincent.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.